la foi en la guérison divine. J'avais bien dénommé cette étude, je le souligne à nouveau, la foi en la guérison divine. Et je voudrais voir un petit peu pourquoi que ce qui se passe, essayer de réfléchir à ce qui se passe lorsque la prière pour la guérison des malades de l'Église, c'est ce qui nous intéresse, nous l'avons dit, n'est-ce pas, au-dessus de tout, dans cette étude, eh bien, nous voudrions savoir pourquoi à certains moments la prière n'obtient pas l'exaucement désiré. Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Nous ne retirons rien, n'est-ce pas, à l'absolu de ce qui a été dit, à savoir que c'est la volonté de Dieu que les enfants de Dieu soient en bonne santé. Nous avons vu que pour aller à la recherche de l'état de santé ou éventuellement de la guérison d'une maladie, il fallait être dans la course, remettre dans la course, et pour cela s'examiner pour savoir si nous étions dans la foi étant précisément cette course. Je vais parler maintenant, tout d'abord, de l'entourage d'un malade dans l'Église. C'est quelque chose de très important, on ne peut pas omettre cela, enfin, c'est très important. Non seulement, comme nous l'avons déjà dit, il ne faudra pas juger le frère ou la sœur éventuellement malade, mais bien plus, il faudra l'aider. Il faudra l'aider. L'aider en l'entourant avec un esprit de miséricorde et de foi, c'est-à-dire un cœur réellement capable de miséricorde, de concevoir la miséricorde. Il se sent lui-même poussé par la miséricorde. La foi est une chose excellente, mais il faut bien sûr, en ce qui concerne le secours à apporter à des membres de l'Église, il faut disposer de miséricorde. La miséricorde, c'est l'amour, l'amour en action, n'est-ce pas? Et nous savons qu'il y a aussi dans l'Église des dons pour secourir les autres. Et ces dons utilisent essentiellement la puissance de la miséricorde. Et il faut bien sûr la foi. Nous pouvons dire que la foi de l'entourage va aider la foi du malade. La foi aide la foi. La foi entraîne la foi. Nous entraînons les uns les autres dans cet exercice de la foi. Et essayez d'exercer la foi au milieu de gens qui n'en ont pas, qui sont dans l'incrédulité. Vous verrez combien c'est froid, combien ça vous refroidit, combien c'est difficile. Tandis que si on est, n'est-ce pas, on a un entourage de frères et de sœurs et qui eux-mêmes exercent la foi, eh bien tous ensemble, on va s'aider à cet exercice de la foi. Certains malades ne s'en sortent pas parce qu'on ne les aide pas. On ne les aide pas. Et l'on n'a pas le véritable esprit de charité pour les aider. Vous savez, moi je ne ménage rien, je fais le tour de la question autant que je puisse le faire avec les lumières que le Saint-Esprit veut bien me donner. Eh bien, on ne les aide pas. Il n'y a pas de personne qui, intérieurement, je parle de l'aide intérieure, celle-là est au-dessus de tout, intérieurement, n'est-ce pas, pense que le malade doit guérir, que le malade veut le guérir. Il peut se trouver dans l'entourage quand le malade est gravement atteint, au contraire des personnes qui pensent qu'il va mourir. Eh oui, il y a des personnes qui pensent qu'il va mourir. Oh, j'ai entendu, mes amis, je l'ai entendu, et je l'ai entendu concernant des malades qui ont guéri. Et d'aucuns disaient, oh non, c'est trop grave, il va mourir, oh non, il n'a plus de force, il va mourir. Comment voulez-vous que dans un tel entourage, la prière de la foi puisse s'élever vers Dieu? Comment voulez-vous que la foi soit soutenue, mes amis? Il y en a qui sont tout de suite portés au pire. Mais c'est de l'incrédulité, cela. Alors il faut, n'est-ce pas, que l'entourage ait lui-même foi. Et il faut entourer le malade avec des cœurs remplis de confiance en Dieu et non pas remplis de bons sentiments. Les bons sentiments, vous voyez ce que je veux dire par là, les bons sentiments dont l'homme est capable, dont n'importe quel homme du monde pourra à l'occasion être capable. Il y a des hommes du monde qui ont de bons sentiments, comme on dit, n'est-ce pas, c'est-à-dire un cœur généreux, c'est le mot généreux qui leur convient. Mais c'est pas ça, n'est-ce pas? Il faut des cœurs remplis de confiance en Dieu. Ce sont des actions spirituelles qui doivent être engendrées dans notre cœur. Il faut avoir un esprit d'humiliation pour l'aider dans cette voie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur aussi de s'humilier soi-même pour le malade. Pas dire parce qu'il faut, n'est-ce pas, commander que le malade s'humilie, ça, il doit le comprendre lui-même, n'est-ce pas, c'est son affaire. Hein. Mais nous pouvons faire comme faisaient des grands serviteurs de Dieu. Ils s'humiliaient eux-mêmes, les concernant, n'est-ce pas, ils s'humiliaient pour le peuple. Ils s'humiliaient pour le peuple. Nous voyons par exemple un prophète Daniel, eh bien, qui s'humilie, et ce prophète, pourtant, ce que nous connaissons de lui, nous montre un homme véritablement dévoué à l'Éternel, un cœur dévoué à l'Éternel, un cœur soucieux en toute chose, en tout point, de plaire à l'Éternel avec persévérance. Il a vécu et exercé son ministère de prophète jusqu'à plus de 80 ans. Et il est resté constamment fidèle. On ne trouve rien dans la Bible, pourtant la Bible nous dit la vérité sur chaque personne, on ne trouve rien concernant ce prophète, rien qui soit une ombre. Je ne dis pas qu'il ait été parfait, parce qu'il n'y a pas d'homme parfait, n'est-ce pas, sauf quand Dieu l'a rendu tel, mais cependant, n'est-ce pas, c'est véritablement un modèle. C'est un modèle, je souhaiterais que nous soyons tous comme Daniel, n'est-ce pas, ayant ce même discernement, ce même désir de tout faire pour plaire au Seigneur, jusqu'à refuser, en risquant sa vie, refuser de manger les plats du roi. Eh bien, nous disions, n'est-ce pas, que le prophète Daniel, comme d'autres, s'était humilié lui-même pour le peuple. C'était le peuple qui était surtout en cause, c'était pas lui, mais il s'était humilié. Alors, cette humiliation est nécessaire, elle plaît à Dieu, elle peut avoir une action efficace dans le sens d'une aide apportée aux malades. Hein, il faut réfléchir à tout ça. Ainsi, dans l'Église, et je vous dirai tout à l'heure d'ailleurs, je vous montrerai plus avant comment cette humiliation autour du malade peut avoir beaucoup d'efficacité, énormément d'efficacité. On n'y pense jamais à ça, mes amis, mais nous avons pourtant tout un ensemble spirituel qui doit nous être révélé par la parole de Dieu. Sachons que les paroles qui ne correspondent pas à une attitude intérieure vraiment spirituel, ces paroles sont fausses et nocives. Alors on fera bien, devant un malade, ou même dans l'entourage d'un malade, même s'il n'entend pas, de tenir sa langue. Les paroles, considérer qu'ils ne viennent pas d'un faux, véritablement acquis à l'Esprit de Dieu, ouvert à l'Esprit de Dieu, et pénétré par l'Esprit de Dieu, eh bien, ces paroles sont mauvaises. Alors là, je vous rappellerai ce que dit le Seigneur. Que votre parole soit oui, oui, non, non, tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Alors, que les paroles, vraiment, qui reviennent d'un cœur vraiment spirituel. Il faut, donc, nous l'avons dit, aimer le malade, aimer comme Dieu l'aime, et puis, bien entendu, recourir à la prière pour l'aider efficacement. Cette prière ne doit pas être formulée s'il s'agit du proche entourage du malade, c'est-à-dire si l'on est par exemple autour de lui, qu'il soit assis, couché ou peu importe, n'est-ce pas? Eh bien, cette prière ne doit pas être formulée pour être entendue du malade. ou entendu de ses proches, de ses, des membres de sa famille, ou de « Oh, mes amis, on sent, n'est-ce pas, que quelque chose n'est pas vrai, ça ne sort pas du cœur, ça ne sort pas d'un cœur véritablement pur, mais ce sont des paroles calculées, des paroles qui sont faites pour être entendues de ceux qui sont là. Comme c'est mauvais, ça, de prier comme ça. Oh, j'ai entendu des prières avec toutes sortes de choses, et ce très cher frère, et ce véritable ami qu'il a été pour nous, et ceci et cela. C'est tout un panégyrique que l'on fait, n'est-ce pas, là devant le malade. Oh, c'est ça la prière. Mes amis, comme il faut que nous dénoncions tous ces travers-là. On prie Dieu pour être entendu de Dieu. Tant pis même s'il y avait quelque chose dans la prière qui soit vraiment suscité par le Saint-Esprit et qui même, je dirais, et peut-être un peu déplacé, paraîtrait un peu déplacé par au gré des proches, n'est-ce pas? Ça, peu importe, il faut prier ça, pour être entendu de Dieu et de Dieu seul. Il faut se livrer à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit de compassion. Et la prière pour la guérison est toujours dans la volonté de Dieu. Sachons-le, toujours dans la volonté de Dieu. Nous n'avons pas le droit de lâcher prise. Nous n'avons pas le droit de dire, eh bien, Dieu va le prendre, maintenant c'est fini pour lui sur la terre. C'est pas à nous de régler ce problème-là. C'est pas à nous, ça appartient à Dieu. C'est là que nous empiéterions sur la souveraineté de Dieu. Nous n'avons pas le droit, n'est-ce pas ? Tant qu'il y a de la vie, n'est-ce pas, nous avons à prier dans le sens de la vie, un point, c'est tout. Les personnes qui soignent et qui entourent le malade doivent donc former un véritable faisceau et pouvoir élever une prière d'union entre eux, s'unir entre eux, pour élever une prière puissante et efficace. Nous allons passer maintenant à la foi de l'Église. Nous disions, et nous avons remarqué, ce n'est pas nous qui l'avons remarqué seulement, n'est-ce pas, puisque je l'ai entendu dire différents chrétiens, et notamment par des médecins, je vous dis, des médecins chrétiens. L'Église évangélique, les médecins chrétiens évangéliques, l'Église évangélique est maintenant beaucoup plus ravagée qu'elle ne le fut il y a peut-être, je ne sais pas, un certain nombre d'années en arrière, qu'elle ne le fut, elle est plus ravagée par les maladies. Il y a quelque chose tout de même qui ne va pas, n'est-ce pas ? Quelque chose qui ne va pas en cela. Et il y a un signe, il n'y a pas de doute. Ben, eh bien, il faut donc que nous étudions un petit peu le grand contexte, l'Église. C'est difficile d'être chrétien, remarquons-le, lorsqu'on est tout seul. C'est difficile. La vie chrétienne conduite quand on est tout seul est plus difficile. Le Seigneur ayant voulu que le lien de l'Esprit puisse s'établir entre plusieurs de ses enfants. Un lien de l'Esprit. L'Église n'est pas un agglomérat de gens qui peuvent se dire chrétiens ou enfants de Dieu, mais elle est une communauté spirituelle. Elle est une communauté spirituelle. Et il faut se rappeler et méditer, pas seulement lire comme ça en passant, mais méditer ce que le Seigneur a dit pour l'Église en Jean 13, 33. Jean 13, 33, mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous, vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça, c'est l'Église, mes amis. Il n'y a pas besoin d'en dire tellement long. C'est l'Église, cela. C'est la communauté des enfants de Dieu, c'est les membres de l'Église unis les uns aux autres, qui sont membres les uns des autres, comme dit Paul, membres les uns des autres, un commandement nouveau, c'est un commandement qui est utile, qu'il faut proclamer dans le cadre de cette nouvelle alliance qu'apportait le Seigneur Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est le grand signe de l'Église. S'ils s'aiment et non pas se font des cajoleries simplement, des embrassades, n'est-ce pas, et puis c'est tout. Non, s'ils s'aiment comme Jésus nous a aimés et continue de nous aimer, s'ils s'aiment ainsi, eh bien, à cela, les gens de l'extérieur connaîtront, verront qu'ils sont les disciples du Seigneur, ils verront que c'est la véritable Église. Ils découvriront la véritable Église. Alors, c'est pour ça, mes amis, qu'il y a évidemment tant de déchirements dans l'Église, parce que le diable, on laisse le diable s'y introduire, et lui, il sait bien que c'est à l'amour que l'on verra la véritable Église, et que sera la véritable Église. Alors, il veut la ravager. Et c'est pour ça, n'est-ce pas, que des animosités, Paul les dénonce, les animosités réapparaissent dans l'Église, rien que ça, les animosités, mais ça suffit, c'est même pas la peine de regarder le reste. S'il y a des animosités, mieux vaut fermer la porte, s'en aller. Il n'y a plus d'Église. Il n'y a plus d'Église. S'il y a des déchirements, ah, c'est quelque chose de terrible, et souvent ces déchirements interviennent pour des causes purement charnelles. Il faut donner réalité à ces paroles du Seigneur, leur réalité spirituelle, il faut absolument lui donner place, cette réalité spirituelle au milieu de nous, c'est une réalité spirituelle que de s'aimer les uns les autres. Si l'Église ne suit pas dans sa totalité ceux qui ont cette vision du véritable amour, et hélas, les lettres de l'Apocalypse nous le montrent, il y a malheureusement souvent deux parties dans l'Église. Hein? Les lettres de l'Apocalypse, plusieurs lettres nous montrent cela. Il y a ceux qui tendent vers des Jézabel ou vers la doctrine des Nicolaïtes ou autre doctrine de Balaam, n'est-ce pas? Il y a ceux qui s'enorgueillissent, et puis il y en a d'autres qui restent dignes de marcher avec le Seigneur en vêtements blancs. Alors, ça fait, en somme, dans l'Église, quoi donc? Ça fait un Ésaü et un Jacob. Et ils sont dans le même sein. Et ils se battent comme ils se battaient dans le sein de Rebecca. Ils se battent. Dans le sein de Rebecca, les deux enfants se battaient déjà. Alors, c'est terrible, ça. Enfin, le Seigneur nous a montré ce tableau. Et il nous l'a montré. Il le voit. Je ne veux pas dire ce sera fatalement comme ça, n'est-ce pas? Mais hélas, n'est-ce pas? Ce sont des choses qui apparaissent. Mais enfin, n'est-ce pas, disons ceci, c'est que si on ne peut pas avoir la totalité, ceux qui ont la vision du véritable amour devront s'unir dans la prière de l'Église qui réjouit le cœur de Dieu. Ne négligeons pas non plus la pensée que la prière fervente pour les malades de l'Église devrait pouvoir s'élever de l'Église à la faveur d'un climat spirituel favorable, d'un climat spirituel très bon, d'un niveau spirituel élevé. Ah, s'il y a un niveau spirituel, et voyez, ici nous en avons fait l'expérience ces années dernières, nous ne sommes pas, évidemment, un modèle extraordinaire, non, c'est pas ça que je veux dire. Enfin, je veux pas proposer Perlillot comme modèle, parce que sans ça, on me lapiderait. Mais on peut dire tout de même que nous avons réalisé des expériences. Je ne dis pas parce que nous avons été supérieurs à des églises, supérieurs à d'autres, des pasteurs, etc. C'est pas ce que je veux dire. S'ils m'entendent, qu'ils sachent bien que c'est pas ça. Je veux bien me faire, moi, le plus petit de tous. Je serais bien à ma place, là. Mais ce que, n'est-ce pas, je veux dire, c'est que, étant ici dans un temps de retraite, pouvant prier le matin, le soir, régulièrement pouvant nous réunir deux fois par jour pour méditer la parole de Dieu, n'est-ce pas, et prier après cette méditation, eh bien, forcément, nous faisons, sans que nous en ayons toujours un compte exact, nous faisons monter le niveau spirituel, nous relevons le niveau spirituel d'ensemble de l'ensemble. Il y a des personnes qui reçoivent plus que d'autres, bien sûr. Il y a des personnes elles-mêmes qui font des progrès. C'est très bien, nous en remercions le Seigneur. Mais le niveau spirituel au milieu de nous s'élève, n'est-ce pas? Et si ce niveau spirituel s'élève, eh bien, nécessairement, notre prière prend plus de force. Et nous avons vu ici, en effet, se réaliser des exaucements déjà, n'est-ce pas, au milieu de l'Église, et notamment en matière de délivrance et de guérison, des exaucements, qu'est-ce que vous voulez, qui ont été tout de même les bienvenus et qui ont montré que Dieu écoutait la prière et était plus favorable à la prière lorsque le niveau spirituel s'élève. C'est arrivé, par exemple, de prier, je me rappelle cette circonstance, pour la fille de Madame Christian, qui était dans une phase très mauvaise, délicate d'une certaine maladie, il y a quelques années, et Madame Christian était auprès d'elle, ça allait très mal, il était question de la transporter à Purpan, à Toulouse, etc. Et nous nous sommes mis ici vers 8h15, quelque chose comme ça, à prier, et dans le même instant, une demi-heure ou une heure après, tout changeait dans la chambre de la malade. Et nous avons vu ces choses. On ne va pas l'oublier quand même. Enfin, ou nous oublierions, n'est-ce pas, les faits, les hauts faits de notre Seigneur, notre Dieu. Mais enfin, ce que nous voulons comprendre, c'est que, élevant le niveau spirituel, sans être des gens qui veulent se montrer supérieurs aux autres, pas du tout, qui veulent au contraire s'humilier, mais avec un niveau spirituel plus élevé, ça, on a obtenu peut-être davantage. Et nous avons eu aussi, n'est-ce pas, le cas de Madame Thévenet, qui était infirmière elle-même et qui avait un fibrome, n'est-ce pas, qui avait été identifié, il y avait eu même des prélèvements de faits, analyses, etc., par le médecin de Tonins. Bon, et puis elle devait être admise dans un hôpital à Bordeaux, quand, avant de la laisser partir, nous avons fait ici une réunion de prière particulière, spéciale pour ça, on a fait l'onction d'huile, et puis le lundi matin, quand elle s'est rendue là à la convocation auprès du gynécologue qui devait l'opérer et qui voulait l'avoir préalablement, eh bien, il n'y a rien eu, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, au point qu'il l'a examinée deux fois. La fille de Mme Thévenet était avec elle, n'est-ce pas? Elle allait s'orienter vers la médecine. Eh bien, il l'a examinée, il n'y a plus rien. Et il m'est arrivé ensuite, la fille de Mme Thévenet s'appelle Marie-Jeanne, de lui demander quelque temps après, et alors, votre maman, qu'en est-il? Je dis, il n'y a plus rien. Elle a pu voyager après, n'est-ce pas? Eh bien, voilà ça et d'autres choses, n'est-ce pas? D'autres choses qui ont été vraiment tout à la gloire de Dieu, mais je veux en tirer cet enseignement ce matin, que, en élevant le niveau spirituel dans l'Église locale, nous ne sommes pas nous une Église locale, mais nous avons fait cette expérience-là ici, n'est-ce pas? En élevant le niveau spirituel, on restitue à l'Église la force dont elle doit disposer pour qu'elle soit terrible, comme terrible pour l'ennemi, comme nous le disions hier. Le milieu église locale, donc, intervient, et même, je dirais, l'église de tout un pays intervient. L'église de tout un pays, dans l'efficacité de la prière en vue de la guérison. Le chrétien qui priera isolément aura moins de force, nous le savons, mais le petit noyau qui priera en bonne union d'esprit aura d'autant plus de force qu'il n'a pas à vaincre des ténèbres, mais peut tout aussitôt atteindre le trône de Dieu. Est-ce que au-dessus de nos têtes, si je puis m'exprimer ainsi, est-ce qu'il y a liberté, est-ce qu'il y a libre communication avec le trône de Dieu? Moi, j'ai été très convaincu parce que j'ai lu de Finet, n'est-ce pas, qui dit que à certains moments dans ses visites en Angleterre, notamment, et il a trouvé sur certaines communautés une charge épouvantable de ténèbres, et qu'il a dû aller lutter avant de pouvoir briser ce carcan de ténèbres qui était sur certaines communautés qu'il devait visiter, où il devait parler, et il se rendait compte que s'il allait parler comme ça, ça n'aurait rien fait du tout. Et j'en ai fait moi-même l'expérience, hélas, que c'est à certains moments, vous allez dans certains lieux, vous annoncez la parole, vous vous sentez rétréci, vous vous sentez ficelé, là, tenu par des liens, et vous sentez que la parole, elle va contre un mur, et que rien ne se fait, vous parlez pour rien du tout. Et ça c'est... Et, les prédicateurs font quelquefois cette expérience-là. Eh bien, n'est-ce pas, il y a ça, il faut prendre en considération évidemment cela. Il y a sûrement des résistances à la prière de l'Église. Il y a des résistances, c'est pas douteux. Si nous ne méconnaissons ça, alors mes amis, c'est que nous ne sommes plus du tout dans l'information, la bonne information qui est celle de la révélation. Le prophète Daniel, nous avons déjà vu ce passage, le prophète Daniel, au chapitre 10 et au verset 12, s'exprime ainsi, chapitre 10 et verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien. C'est un ange qui est venu et qui l'a appelé d'ailleurs homme bien-aimé. Ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles, voyez comme il s'est humilié lui-même devant son Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Nous, Daniel priait pour son peuple, il s'humiliait personnellement, nous l'avons souligné tout à l'heure, n'est-ce pas, mais voilà, n'est-ce pas, 21 jours, et il prie, il s'est humilié, tout y est, toutes les conditions y est, c'est un bien-aimé, homme bien-aimé, l'ange l'appelle ainsi. Je voudrais bien, moi, qu'un ange vienne me dire ça. Et ça, j'ai dit déjà, bien-aimé. Alors, il lui dit, n'est-ce pas, homme bien-aimé, ne crois pas que ta prière n'ait pas été entendue. Elle était bonne, sa prière, elle avait toutes les conditions pour elle. C'était un homme de prière. Matin, midi et soir, il était là, dans la direction de Jérusalem, il priait. C'était un homme constant dans ses voies. Et par conséquent, un homme de prière, n'est-ce pas, persévérant. Alors, ne crains pas, dès le premier jour, ta prière a été entendue. Mais, attention, c'est que, il y avait un barrage, c'est que les ennemis étaient puissants, ils étaient organisés au-dessus de la Perse, là, où se trouvait le peuple, là, ils étaient organisés, on était à Babylone à ce moment-là, ils étaient bien organisés, les ennemis, et ils avaient fait tout un chapeau, toute une couverture là-dessus, et puis, dès que quelque chose arrivait d'en haut, n'est-ce pas, ils faisaient barrage. Une chape de ténèbres était là. Bien, mes chers amis, voilà ce à quoi nous aboutissons avec nos insuffisances et avec le caractère que nous avons laissé à notre Église, n'est-ce pas, laissé prendre à notre Église un caractère, le caractère d'une Église qui s'est laissée aller, d'une Église tiède, d'une Église dans laquelle malheureusement, il y a des animosités, il y a des mouvements divers, il y a des cœurs fermés. Oh, chers amis, alors l'ennemi en profite. Il en profite, l'ennemi, n'est-ce pas? Et nous avons ce texte bien connu aussi de Éphésiens 6. Éphésiens 6. Il ne faut pas oublier toutes ces choses-là. Pour les prendre en considération, Éphésiens 6, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Oh, Il faudrait prendre toutes les armes de Dieu, et toutes ces armes de Dieu, si l'Église, comme un seul homme, les prend, vous savez, ce sera magnifique. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, la chaussure qui est le zèle que donne l'Évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Puis alors, en tout temps, maintenant, faites des prières par l'Esprit. Oui, mais une Église comme ça, c'est magnifique, ça n'est pas douteux. Elle obtient tout autant que le Seigneur Jésus obtenait sur la terre, cette Église-là. Et bien sûr, mais malgré comment peut-elle être cette Église forte, solide? C'est parce qu'elle prend toutes les armes de Dieu, parce qu'au-dessus d'elle, dans les airs, c'est-à-dire dans les régions supérieures de la terre, il y a là des ennemis. Des ennemis qui sont nommés ici, n'est-ce pas, par l'apôtre Paul. Alors il faut constamment les tenir en échec. Il faut lutter contre tout cela. Il y a des luttes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang seulement. Nous avons à lutter. Mais pas seulement contre la chair, il y a bien pire que cela. Il y a bien plus puissant que la chair et le sang, n'est-ce pas? La chair et le sang, c'est-à-dire la corruption naturelle de l'homme, susceptible d'entraver la marche et la force de l'Église. Bon, alors il faut lutter contre la corruption naturelle, mais il faut lutter aussi contre une puissance de mal beaucoup plus grande, contre un royaume de ténèbres servi par des esprits méchants, qui lui est en lutte continuelle contre le règne de Dieu et contre ceux qui appartiennent au règne de Dieu, par conséquent contre l'Église. C'est l'Église, n'est-ce pas, l'ennemi numéro un de Satan, c'est l'Église. Alors, ils sont là, en lutte. Et quand ils voient cette Église se laisser aller, s'installer, alors, vous savez, ils font un plafond là au-dessus, quelque chose de magnifique. Et ils font un plafond, ils installent librement, n'est-ce pas, toutes sortes de princes, toutes sortes de dominations, d'autorités, d'esprits méchants, et qui sont là en place, n'est-ce pas. Voilà. La chair et le sang, c'est la nature déchue de l'homme qui réapparaît, hélas, dans l'Église, lorsqu'elle ne reste pas maîtrisée. Et pour vous en donner une idée de cela, n'est-ce pas, eh bien, il nous faut, hélas, je dis hélas, parce que c'est un chapitre qu'on aimerait peut-être pouvoir supprimer avec l'autorisation du Seigneur, mais il est là, chapitre 3 de 1 Corinthiens. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi, je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce donc que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » Enfin, voilà toutes ces choses qu'il faut savoir, mais aujourd'hui on est encore dans l'Église, on vous dit « Ah, un tel, vous savez, il délivre un tel, il est puissant pour guérir, etc. » Alors, c'est la même chose, c'est toujours, n'est-ce pas, cet esprit charnel qui réapparaît, « Moi j'ai un Paul, moi j'ai un Apollos. » Il y en a même qui disait « Ah, moi je suis de Christ, encore mieux que tout le monde, n'est-ce pas, je suis de Christ. » Et se disant, il faisait de Christ un faux Christ, dans leur pensée, dans leur cœur. Alors, n'est-ce pas, voyez toutes ces choses, n'est-ce pas, dans l'Église, ça vient de la chair et du sang, ce sont des choses charnelles, et ça empêche le climat spirituel ou la valeur spirituelle d'apparaître, n'est-ce pas. Il ne peut pas y avoir de spiritualité là où il y a le déploiement de la chair et du sang, ce n'est pas possible. Si bien que la situation spirituelle de l'Église en est pour une part compromise, la chair et le sang étant des instruments aveugles, les instruments aveugles d'une puissance qui les domine et qui retient l'Église dans un embarras, dans un méli-mélo ténébreux. Mais faut voir les choses carrément, vous savez, faut pas dire, ah c'est l'Église, alors par définition elle est parfaite. Non, nous avons vu la vision que Dieu a, n'est-ce pas, et qu'il réalisera, mais il va la réaliser, n'est-ce pas, par les moyens qui sont les siens, hein, et Dieu ne tergiverse pas. Les églises et les chrétiens ont donc à lutter continuellement contre un fardeau, contre des ennemis, un fardeau, une chape qui pèse sur eux, qui les écrase, et qui écrase surtout leur vitalité spirituelle, morale et physique, tout à la fois. La vitalité est retenue, est comprimée, là, est compromise. La vitalité est compromise par ces ténèbres lorsque elles s'accumulent. Il y a en effet mobilisé, n'est-ce pas, contre Christ et son Église, toutes ces dominations, ces autorités dont parle l'apôtre Paul. Littéralement, dans Éphésiens 6-12, eh bien, ce sont les dominateurs universels des ténèbres qui dominent sur le cosmos. Le mot, c'est-à-dire sur le monde. Il domine sur le cosmos, dominateur universel des ténèbres. Et puis aussi, les spirituels de la méchanceté. Au lieu des esprits, les esprits méchants dans les lieux célestes, ce sont les spirituels de la méchanceté. Il y a même des gens dans l'Église qui sont cela. Les spirituels de la méchanceté. Des gens très spirituels. Infiniment spirituels à leur dire, n'est-ce pas ? Et qui sont les spirituels de la méchanceté. Et alors, ces esprits spirituels de la méchanceté occupent des régions supérieures de la terre, et ils ne sont pas très loin, mais ils sont là, ils ont la faculté de ne pas être rivés à la terre comme nous le sommes, nous, n'est-ce pas ? Et ils font peser un poids de lourdes ténèbres sur la terre tout entière, et quand ils le peuvent, ils les accumulent sur l'Église, s'efforçant de masquer toute apparition de lumière. Ce que veut Satan, n'est-ce pas, c'est boucher tous les trous. Dès qu'il y a une percée par où la lumière d'en haut pénètre sur la terre, alors là, il y a une Église, il y a une nuée sur l'Église. Alors Satan essaie de boucher le trou, fermer ça. Alors il mobilise ses troupes, mais il faut que l'Église lutte. Si l'Église lutte, alors au-dessus d'elle, n'est-ce pas, il y a une percée. Percée de lumière. Et n'oublions pas non plus ce que nous dit Jean dans sa première épître, il faut toujours revenir, même si ce sont des textes qu'on connaît bien. 1 Jean 1,5, la nouvelle que nous vous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà où nous sommes purifiés, quand nous marchons dans la lumière. Mais il faut marcher dans la lumière et laisser les ténèbres, n'est-ce pas ? Alors, si l'on marche dans la lumière, eh bien, à ce moment-là, l'Église aura sa percée, elle aura son accès tout préparé au trône de la grâce, sa prière pourra monter, la réponse pourra venir sans qu'il y ait interception par les esprits méchants. Ils seront tenus en échec. Et l'arme de l'Église sera donc cette prière efficace, prière qui sera poussée jusqu'à la supplication. N'est-ce pas ? Après nous avoir parlé des armes de Dieu, l'apôtre Paul nous dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Attention, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi aussi, dit-il, afin que me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le ministère de l'Évangile. Parce que lui aussi, l'apôtre Paul, de même tout prédicateur, tout pasteur, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, eh bien, il serait vite enveloppé de toutes sortes de ténèbres et d'esprits méchants qui essaieraient d'aveugler la parole et la puissance de sa parole, n'est-ce pas ? Alors, il faut donc, vous voyez, toute cette prière, mais une prière à condition que les autres armes de Dieu soient utilisées. Alors, hein, je vous dis, ça fait une église magnifique si les armes de Dieu sont utilisées. Il est difficile à un chrétien de vaincre seul si son église ne combat pas avec lui. Par conséquent, il sera difficile à un chrétien d'obtenir sa guérison si l'église ne combat pas avec lui. Il est dans l'église, et si l'église ne combat pas, si l'église est abandonnée à des facilités, à un état charnel, n'est-ce pas, eh bien, il est évident que ce pauvre malade va avoir du mal. C'est ce qui fait que le nombre des malades va s'accumuler, va s'accroître dans l'église. Là est la raison aussi des ralentissements d'ensemble que l'on constate et de la perte globale de puissance. L'Église perd sa puissance, c'est une perte globale. Si l'obéissance n'est pas alliée à la prière, et la prière alliée à l'obéissance, alors l'Église se laisse recouvrir d'un écran de ténèbres. Celle-ci, ces ténèbres, autrement dit, vont se refermer sur elle. Et je pense à ce qu'a dit le Seigneur au début de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 5, à l'église d'Éphèse. À l'église d'Éphèse, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Alors si le chandelier est ôté, il n'y a plus de lumière et plus rien. Il n'y a que rien si le Seigneur en vient à retirer le chandelier, c'est-à-dire la lumière, qu'il est lui-même. Alors il n'est plus là. Il n'est plus là, il n'apporte plus sa lumière. Et les ténèbres vont se refermer sur l'Église. Et qu'est-ce qui va rester de cette pauvre Église si la lumière se retire? Il va rester des formes mortes. L'Église va être dans les formes mortes, des habitudes, des traditions mortes, des manières de faire, de chanter, de prier mortes, des manières d'annoncer la parole morte. Tout sera mort. On sera tous plongés dans les ténèbres, c'est-à-dire dans la mort. Ah, je n'exagère pas, mes amis. Je n'exagère pas du tout. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Je retirerai le chandelier de sa place. Ah, c'est. Alors, il faut penser à tout cela. Il faut penser à tout ça. Il ne faut pas incriminer le Seigneur. Il ne faut pas incriminer le Seigneur. C'est nous qu'il faut incriminer. Il y a donc, en résumé là-dessus, ou bien aide efficace et nécessaire apportée par l'Église, si elle est bénie, si elle est vivante, ou bien alors il y a paralysie de toute action, de toute puissance, même par la prière, si elle a été gagnée par les déchirements de la chair et du sang, et par les ravages des anges de Satan. Voilà. Alors là, la situation du malade, n'est-ce pas, vous voyez, elle est ou bonne ou mauvaise selon ce qu'est son milieu, ce qu'est son Église. La responsabilité de l'Église, par conséquent, est grande. Et nous aurions donc, j'en reviens à cela, tout à fait raison de nous humilier les uns et les autres quand nous avons des malades, parce que c'est de notre faute aussi. C'est la faute de la communauté tout entière. Hein, vous voyez, nous aurions raison, par conséquent, de nous humilier. Et si nous nous humilions et nous reprenions en main les armes de Dieu, et que nous fassions monter la prière, voire même jusqu'à la supplication, eh bien vous verriez que les malades guériraient. Nous allons maintenant parler de la foi et de la volonté de Dieu. Parce que les prières pour la guérison sont souvent assorties de réserves, notamment celles que l'on connaît bien. Seigneur, guéris ce malade, ou guéris-moi, si toutefois, Seigneur, c'est ta volonté. Si c'est ta volonté. Bon. Alors, avec une réserve comme celle-là, nous sommes tranquilles. Nous sommes tranquilles. Nous pouvons appeler le médecin. Et aller vite chercher de la pharmacie. Hein? Nous sommes tranquilles avec une prière comme ça. Hein? Ça n'atteindra pas, si vous êtes certain, le trône de Dieu. Même si d'autres conditions étaient réunies. Parce que ça n'est pas une prière de foi. Pas une prière de la foi. La réserve, donc, ainsi formulée, où il y en a d'autres aussi, même d'autres manières, des réserves, enfin, on veut demander au Seigneur, puis on introduit un tas de réserves,
Alors, cette réserve est justifiée par l'intention de ne pas empiéter sur la libre souveraineté de Dieu et de respecter cette souveraineté. L'intention peut être bonne, mais elle n'est pas à sa place. On ne se sent pas en droit de dicter à Dieu sa réponse. Nous ne pouvons pas, j'ai entendu des gens me dire ça, nous ne pouvons pas, même ici, il y a des gens qui me l'ont dit. Et on ne peut pas dicter, vous comprenez, à Dieu sa réponse. Ah, on ne peut pas la dicter. Non, c'est vrai, on ne peut pas dicter quelque chose à Dieu. Oh, je le sais qu'il faut respecter la souveraineté de Dieu. Mais alors, il faudrait cesser de prier s'il faut introduire cette réserve, si c'est ta volonté, Seigneur, te demandons ça, mais attention, tu le fais ou tu nous donnes un exaucement, si c'est ta volonté. Alors il faudrait cesser de prier, parce que la prière, hors de la foi, n'a aucune force. Et le Seigneur Jésus l'a déclaré, n'est-ce pas? Alors il faudrait tout de même tenir compte de tout. Dans la vie chrétienne, il faut tenir compte de tout, absolument de tout, pas d'un verset en passant, mais de tout. Alors dans Marc, par exemple, Marc 11, verset 24, Marc 11, verset 24, nous avons ceci. « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. » Croyez que vous l'avez reçu. Alors je ne peux pas dire à Dieu si c'est ta volonté, puisqu'il faut que je croie que je l'ai reçu. Que je croie, autrement dit, à l'exaucement au moment où je prie. Alors je ne peux pas dire à Dieu si c'est ta volonté. Voyons, je ne peux pas lui dire ça. Ou alors, n'est-ce pas, c'est que je n'ai pas de foi. Croyez que vous l'avez reçu. Concernant la guérison, Dieu n'a-t-il pas montré d'ailleurs que c'était sa volonté? Et n'a-t-il pas donné bien des promesses et des directives à ce sujet? Nous les avons vues, je ne vais pas y revenir. Il y a une exception, une seule exception à la non-guérison, qui fait que la prière de guérison ne soit pas exaucée. Il n'y a qu'une exception. Eh bien, cette exception, je vais vous la lire. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison, il ne put faire là aucun miracle. Le Seigneur ne peut pas faire de miracle là. Il ne peut pas. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Ah, l'incrédulité ferme la porte. Ça ferme la porte. Et ça, Dieu l'a résolu. Là, voilà la volonté de Dieu. D'un côté, la volonté de Dieu est guérie, est de guérir. Et d'un autre côté, la volonté de Dieu est de fermer la porte absolument à toute grâce lorsqu'il y a de l'incrédulité. Et si je dis, si c'est ta volonté, je me fais incrédule, tout simplement. Quand on va revendiquer quelque chose auprès de l'administration, que ce soit les assurances sociales, que ce soit la préfecture, que ce soit tout ce que vous voudrez, la mairie ou n'importe quoi, c'est pas si vous allez dire au brave employé qui est derrière le comptoir, dites voilà, je voudrais bien avoir ça, toutefois si c'est votre volonté, hein, si vous le voulez bien me l'accorder ça. Non, on vient et on lui dit, écoutez monsieur, voilà, en vertu de tel décret, de tel arrêté, vous voyez, n'est-ce pas, j'ai réuni un dossier, j'ai droit à ça, je demande mon droit. Et devant Dieu, on ne va pas demander son droit, mais on va demander quelque chose qu'il a promis. Quelque chose qu'il a promis, tout simplement. Alors, pour introduire cette réserve, si c'est ta volonté, beaucoup de gens s'autorisent de la prière du Seigneur en Gethsémané, dans le jardin de Gethsémané, et là, c'est dans Luc 22, 41, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, voilà la prière du Seigneur, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors on s'est dit, voyez-vous, le Seigneur a prié comme ça. Alors nous, maintenant, toutes les prières, nous allons prier comme ça. Bon. Eh bien, tu n'obtiendras jamais rien. Rien, rien. Alors, tu penses que tu peux t'emparer de cette mention qui est faite là, n'est-ce pas, de la prière du Seigneur à Gethsémané. Tu as le droit de t'en emparer. Mais enfin, tout de même, tu ne sais pas faire la différence des choses. Tu te trompes sur le sens de cette prière. Jésus avait suffisamment dit quelle était la volonté de son père le concernant, concernant son heure. Il fallait qu'il boive la coupe, et il était résolu à la boire. Il n'a jamais hésité là-devant. Mais là, n'est-ce pas, il se trouve à Gethsémané, engagé dans une lutte précisément contre les ténèbres. Il est en train là de lutter avec son humanité, car il faut que ce soit son humanité qui le fasse, et l'humanité qui a, elle, apporté l'obéissance. Dieu n'a pas besoin d'apporter d'obéissance à sa parole, n'est-ce pas, il l'accomplit sa parole. Alors, c'est l'humanité, n'est-ce pas, qui a apporté, qui a été le creuset dans lequel tout s'est fait, toute la partie s'est jouée, n'est-ce pas, contre Satan, contre le péché, contre la mort. Alors là, il est en train de lutter contre les ténèbres. Et que va-t-il devoir faire? Il le sait, il l'a suffisamment proclamé, il va devoir accepter l'horreur, le mot est encore faible, de se charger du fardeau hideux des péchés des hommes. Lui, le saint, lui le véritable, lui en qui Satan n'a rien, lui pur, lui saint comme Dieu. Et il faut qu'il prenne les péchés, mais c'est demander, n'est-ce pas, à Dieu, par exemple, n'est-ce pas, de prendre par devers lui les péchés des hommes, c'est impossible, ça. Et il fallait qu'il y ait entre Dieu et cela, il y ait une humanité, un homme là qui était là, n'est-ce pas, une humanité qui avait été saisie par Dieu, préparée par Dieu pour cette lutte-là, et cette humanité de Jésus, eh bien, elle est là, comme l'instrument dont Dieu se sert, dont l'Esprit se sert. Et alors là, il faut que cette humanité pure, restée pure, s'il y avait eu la moindre tâche, elle ne pouvait rien faire, restée pure, se charge de ça, de ce fardeau qui n'est pas le sien, n'est pas à lui, ceux de tous les hommes. Cette responsabilité, ce fardeau, il a été fait péché, il a été fait, lui, péché, c'est bien les termes de l'Écriture, il a été fait péché. Alors, c'est ça l'horreur. C'est ça l'horreur devant laquelle le Seigneur se trouve, là. Hein, c'est pas la crainte de la mort physique, c'est l'horreur de cela. Jésus ne peut accepter sans manifester qu'il accomplit cette tâche selon la volonté de son Père, il le sait, n'est-ce pas? Mais il ne peut accepter sans manifester, n'est-ce pas, cette répulsion qu'il a déjà manifestée devant Lazare, d'ailleurs, à un moindre degré, mais devant Lazare, le mot grec est très, lorsqu'il frémit en esprit devant Lazare, en réalité, il fut comme indigné et soulevé d'horreur devant la mort. Devant la mort. Eh bien là, n'est-ce pas, il faut qu'il accepte. Il ne veut pas ne pas être soulevé. Son humanité pure ne peut pas, en quelque sorte, presque comme se révolter de cette tâche épouvantable qu'il s'agit d'accomplir. Il ressent, il mesure l'horreur et l'immensité d'un tel fardeau, tout à fait opposé à sa personne sainte. Voilà, alors, tu vas te servir de ça, toi. Pour introduire ça dans toutes tes prières, n'est-ce pas, ce petit venin d'incrédulité, tu vas l'emprunter à quelque chose de magnifique et de très grand, n'est-ce pas, que tu n'as pas compris. Voilà exactement, n'est-ce pas, ce qui se produit. Alors, se baser sur Gethsémané pour justifier l'indécision de la prière de la foi, c'est un véritable non-sens. Quand Jacques déclare que la prière de la foi sauvera le malade, dans Jacques 5, il ne peut s'agir que d'une prière assurée, d'une prière qui est certaine d'obtenir un exaucement, si par ailleurs les conditions sont remplies, et si l'on prie en un milieu de lumière. Le doute a toujours ôté toute force à la prière, et c'est encore Jacques qui nous le dit bien, que le doute, ça ne peut rien obtenir, pas possible. Ça, dès qu'il y a doute, c'est la même chose que l'incrédulité. Chapitre 1, verset 6 de Jacques, mais qu'il la demande avec foi, que quelqu'un, n'est-ce pas, s'il a une demande à faire, qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voyez, ça c'est clair, c'est net. Si vous priez, n'est-ce pas? Eh bien, croyez que la chose que vous demandez, vous l'avez reçue et vous verrez s'accomplir. Si bien que, si on veut, n'est-ce pas, une petite conclusion à cela, eh bien, voilà comment je pourrais la formuler, toute libération, et par conséquent libération de la maladie, s'obtient par une foi objective, hardie, persévérante, une foi qui, alors, se manifeste dans la prière, pour demander, n'est-ce pas, dans la prière, mais dans la lumière. Alors que celui qui prie est dans la lumière, et qui regarde au Christ vivant présent. Voilà, si ces conditions-là sont remplies, alors bien entendu la prière sera aidée par la lumière aussi, qui sera dans l'entourage, qui sera dans l'église. S'il y a la lumière et non point les ténèbres, alors là, ce sera magnifique. Et je voudrais, avant de terminer, vous parler rapidement de l'action de grâce, qui doit être aussi associée à la prière pour la guérison. Quand on s'empare, par exemple, de cette parole du Seigneur, frappez, et l'on vous ouvrira. Bien, il faut frapper comme celui qui est certain qu'on va lui ouvrir. Vous savez, vous pouvez frapper à la porte de la cité céleste, il y a toujours quelqu'un pour ouvrir. Hein, toujours quelqu'un. Alors, il faut être certain de cela, n'est-ce pas? Frappez et l'on vous ouvrira. Bon, par conséquent, je frappe et je suis certain qu'on va m'ouvrir. Le coup que je frappe est comme un résultat que j'ai déjà obtenu. Je frappe à la porte, au moment où je frappe à la porte, c'est comme si déjà la porte était ouverte. C'est comme si déjà j'avais obtenu le résultat que je cherche. Et l'action de grâce peut accompagner au moment où je frappe à la porte, n'est-ce pas? Comme je sais que la porte va s'ouvrir et qu'on va m'accueillir, alors je frappe à la porte, je dis merci Seigneur, que tu permets que la porte s'ouvre, que tu permets que, merci Seigneur, au moment où je frappe, même si j'attends 5 minutes, que la personne qui vient ouvrir, n'est-ce pas, ça c'est un petit peu une vue de, en manière de parabole, n'est-ce pas, mais enfin, si j'attends un tout petit peu, n'est-ce pas, eh bien, je sais que la porte va s'ouvrir. La prière de la foi est donc une prise de possession d'une grâce que Dieu a préparé d'avance et qu'il tient en réserve. Il a préparé d'avance. Est-ce qu'il sait d'avance? Il voit d'avance. Il sait bien ce qu'on va lui demander. Il sait bien, ça c'est même dit, n'est-ce pas? Il connaît nos besoins avant que nous ne les formulions. Il sait très bien. Alors, il sait très bien ce qui va se passer. Voilà, il a préparé la grâce. Elle est toute prête, là. Alors, est-ce qu'il va venir la chercher, cette grâce? Est-ce qu'il va venir, n'est-ce pas? Eh bien, notre foi, c'est tout simplement, n'est-ce pas, une avance. La prière de la foi sera le moyen d'avancer pour saisir la grâce qui a été préparée. Si bien que, si nous sommes convaincus de cela, si nous sommes vraiment nous-mêmes quelqu'un de spirituel, de pénétré de tout cela, si nous sommes exercés à la foi, eh bien alors, n'est-ce pas, nous allons pouvoir rendre grâce. Merci Seigneur, comme le Seigneur Jésus l'a fait devant Lazare, en nous disant que il parlait pour les autres, mais lui, il savait déjà qu'il était exaucé, n'est-ce pas, Père, je te rends grâce. Mais il nous a invités à faire ça. Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Bah, te rends grâce, Père. Et cela avant de voir l'exaucement. L'exaucement, donc, précède la vue même, n'est-ce pas, de cet exaucement. Parce que nous savons qu'il est déjà dans la volonté de Dieu. Rendre grâce après avoir reçu la chose demandée, c'est peut-être bien. On a reçu quelque chose, bon, merci Seigneur, j'ai là quelque chose, je le vois, c'est bien, je ne dis pas que ce soit mauvais, mais ça c'est encore du domaine naturel. Vous allez dire, vous n'allez pas dire merci, n'est-ce pas, à quelqu'un de ce qu'il ne vous a pas donné. Dans l'usage courant, n'est-ce pas, on va dire merci quand on tient quelque chose. Alors ça, c'est du domaine naturel. Mais dans le domaine surnaturel, qui est celui de la foi, le remerciement heureux doit précéder la vue de l'exaucement. Ça, c'est spirituel. Rendre grâce avant, c'est exercer la vraie confiance en Dieu. La vraie confiance en Dieu, c'est ça. Seigneur, merci. Je te rends grâce, Seigneur. Merci de ce que tu m'exauces. Ah, ce que je te demande, Seigneur, c'est ça. Vous voyez, la prière peut très bien être comme ça. Ô combien il nous serait utile au cours de notre existence terrestre de relire les évangiles, de nous fortifier par la parole de Dieu, méditer à fond et aimer, il faut aimer aussi la parole de Dieu, car en elle est la grâce. La grâce, celle qui nous est venue, déjà, en elle, n'est-ce pas, nous découvrons la grâce, une grâce que nous avons déjà reçue, qui nous a sauvés, qui nous a bénis de tant de bénédictions. Mais en elle aussi, il y a la grâce qui va venir aujourd'hui. Et puis il y a la grâce qui va venir demain. Et pour tout cela, Seigneur, je te rends grâce. Pour celle qui est venue, pour celle qui va venir aujourd'hui, celle qui va venir demain, je te rends grâce, Seigneur. Voilà la véritable position spirituelle. Que le Seigneur soit béni. Amen.